plusieurs reprises durant le culte, les musiciens ont interprété un chant qui cadre avec le sujet que je me suis proposé et aussi remercier Michael d'avoir aussi conduit la louange dans ce sens-là. C'est le psaume 139. Je le lis. C'est un psaume où David essaie de fuir loin de l'Éternel. Et il n'y a aucune place où l'Éternel ne va le rencontrer, le retrouver. Et il disait ceci pour clôturer, je vais dire, ses pensées. « Sonde moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, ô Dieu, si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur celle de l'éternité. » C'est ce que je nous souhaite à chacun, de nous laisser pénétrer par la parole de Dieu, de nous laisser convaincre par le Saint-Esprit qui sont toutes choses, pour discerner si nous sommes sur le chemin qui conduit vers le ciel. Quand nous observons le monde, quand nous écoutons l'actualité, nous sommes obligés de constater qu'il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Et je suis peut-être modéré en disant cela. Nous vivons dans un monde qui est déboussolé, un monde qui est orgueilleux. Si les choses du passé ont pu donner des résultats, ne serait-ce que dans l'éducation à l'école, on bafoue ce qui a fonctionné pour en prôner d'autres qui n'ont pas l'air de donner satisfaction. Faut-il s'étonner que notre monde est devenu fou, insensé, sans sens? Depuis longtemps, le monde a décidé de tourner le dos à Dieu et de vivre sans lui. Et aujourd'hui, on n'a plus peur de dire « Dieu n'existe pas ». Et en cela, on cadre avec ce que Dieu dit de tel homme, de tels hommes, que celui qui reconnaît qu'il n'y a pas de Dieu, c'est un insensé, un fou. Le monde en est à ce point. Même la nature entière, la terre, souffre de cette malédiction et de l'homme qui est insensé. Même la nature. Et si nous avions le temps, nous considérerions que dans l'Épître aux Romains, Paul parle justement que les hommes souffrent et que la nature entière souffre, aspire à de jours meilleurs. Et l'apôtre de dire, lors de l'apparition glorieuse des enfants de Dieu. Nous ne devons pas donc être obscurs, inintelligents, quant à savoir dans quel temps nous vivons. C'est l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains qui disait « Vous savez, bien-aimés, en quel temps nous sommes arrivés. C'est l'heure de vous réveiller. Enfin, c'est lui qui le dit, hein, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que le jour que nous avons cru. Chaque jour que nous passons par grâce sur cette terre nous rapproche du jour où le salut sera parfait. Aujourd'hui, sauvés en espérance, bientôt, ce sera la réalité dans le ciel. La violence, la météo, on ne voit pas beaucoup le soleil de ces moments-ci, qui sont vécues, donc la météo qui est vécue de ces derniers temps, m'ont amené à méditer sur une époque semblable à la nôtre. Je souhaite donc survoler avec vous l'histoire du premier marin, du premier grand chantier naval. Un chantier qui n'a pas reçu de subsides de l'État. Je ne sais pas où on allait chercher l'argent, mais enfin, ceux qui étaient actifs, des serviteurs de Dieu, l'ont été avec beaucoup de foi. D'ailleurs, il est répertorié dans la liste des héros de la foi. Un chantier qui a duré 120 ans. Dans les évangiles, Jésus fait mention de cette période, de ce premier marin, pour comparer cette période à la nôtre. Je lis dans Matthieu 24, parce que je suppose que vous avez deviné qu'il s'agissait de Noé. Hein. Ce qui arriva du temps de Noé, Matthieu 24, 37, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. L'évangile de Luc ajoute, le déluge vint et ils périrent tous, excepté huit, Noé et sa famille. Noé, le nom signifie repos, consolation. Quel beau nom, Lémèque, papa de Noé, a donné à son enfant. Un mot qui signifiait sans doute beaucoup pour lui, dans un temps de souffrance. Dans un temps de corruption tel que Lémèque vivait et toutes les générations autour de lui, dans ce temps, de donner à son fils le nom, tu seras pour moi, pour nous, une consolation, un repos. Et en pensant déjà à cela, je me dis, est-ce que nous avons trouvé le repos dans le Fils bien-aimé du Père, en Jésus-Christ? Est-ce que mon âme est reposée sur lui? L'Église a aussi besoin d'hommes de consolation. Vous lirez dans les Actes des Apôtres, il y avait un homme qui s'appelait Barnabas, pas Barabbas, hein, Barnabas, qui signifie fils de la consolation. Et c'était heureux pour une église d'avoir de tels hommes, de telles femmes, qui exhortent, qui consolent, qui apportent le repos de l'âme de la part de Dieu. Nous allons donc revenir à ce Noé. Et survoler, cette parole, cette parole que Dieu a prononcée à Noé, qui pour moi, dans son étude, me montre la chronologie de l'histoire du monde. Je sais que le chiffre 7 est très important dans la Bible. Il souligne les perfections de Dieu même. Et au travers de ces 7 paroles de Dieu adressées à Noé, Dieu va révéler les perfections de sa personne. Sa sainteté, c'est-à-dire sa justice qui est parfaite, et qui révèle les perfections de ce qu'il est, Dieu est saint, et il nous invite à la sanctification. Mais au travers de ces 7 paroles, nous allons découvrir son amour, sa fidélité, qui sont aussi parfaites. Comment Dieu peut-il faire pour réconcilier deux aspects de sa personne qui, à vue humaine, sont inconciliables? Comment Dieu va-t-il faire pour que sa justice soit opérée en faveur, contre le péché et exercer sa grâce en faveur du pécheur? Et ce, de manière parfaite. Dieu est saint. Et je vous propose, dans un premier temps, et si le temps passe, je vous invite à méditer sur les 7 paroles que nous allons lire ensemble, qui se trouvent bien sûr dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, au chapitre 6 pour commencer. Je n'ai pas noté le verset, j'espère le retrouver. Ah oui, voilà, le verset 13. Genèse 6, verset 13. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chose est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. » Voici, je vais les détruire avec la terre. Verset 14. Après avoir parlé que ses yeux ne peuvent pas voir le péché, Dieu donne dans son amour infini, parfait, la solution pour échapper à la condamnation. Il dit à Noé, fais-toi, verset 14, fais-toi une arche de bois, de gopher. On ne sait pas trop bien c'est quoi comme bois, mais d'après les théologiens, il semblerait que ce soit du cyprès, un bois résineux, bon, peu importe, c'est Dieu qui parle. Et tu disposeras cette arche en cellules, tu l'enduiras de poids en dedans, et en dehors. Première fois que Dieu parle à Noé, et c'est une parole d'avertissement, une parole qui est sérieuse, mais en même temps, Dieu propose le repos en donnant le moyen d'échapper à son jugement, à sa justice, à sa sainteté. En disant, fais-toi une arche, et si on avait l'occasion de lire tout le chapitre, et toi tu y entras. Deuxième fois où l'Éternel parle à Noé, Genèse chapitre 7 et au verset 1er. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi, et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Une génération perverse et corrompue. Je ne dis pas que Noé n'était pas un pécheur. Dieu connaît les cœurs et il voyait dans le cœur de Noé un cœur qui marchait avec Dieu. Et qui dit marcher, dit un cœur qui avait foi en sa parole, un cœur qui se soumettait à la volonté de Dieu, un cœur qui obéissait, en résumé, un cœur qui marchait avec Dieu, à l'unisson, côte à côte. Invitation, donc la première fois Dieu avertit, il donne la solution, et puis Dieu dit, maintenant entre. Il y avait l'aspect subjectif qui est l'aspect de Dieu, Dieu dans sa sainteté, Dieu dans sa grâce, et puis il y a la part de l'homme, toi tu dois répondre à mon appel et rentrer dans l'arche. Troisième fois où Dieu parle à Noé, chapitre 8 et au verset 14. Ah oui. Le deuxième mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et leurs femmes, et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux, etc. » Deuxième ordre. Troisième ordre. Sans doute que Noé avait pris l'habitude. Quand j'ai lu le verset 14, vous pouvez imaginer que Noé n'est pas resté dans l'arche 40 jours et 40 nuits pendant qu'il pleuvait, puisque toute la terre a été submergée d'eau. Il a fallu que toutes les eaux retournent dans leur lieu, il a fallu que la terre arrête d'être de la boue, qu'elle sèche, pour qu'enfin Noé entende. Dieu lui dit « Maintenant tu dois sortir ». Pour les calculs, à quelques jours près, selon que l'on calcule dans nos mois à nous ou dans les mois lunaires, on arrive à un an. Donc il s'est écoulé un an dans l'arche. Sans doute que Noé avait pris l'habitude d'y être là, et le boulot ne devait pas manquer. Hein. On imagine le nombre d'animaux qu'il y avait, pour chaque fois nettoyer les cellules, pour donner à manger, et n'était en fait que 8, hein, pour toute une population immense. Sans doute que le train-train est arrivé, mais maintenant, sors de ton train-train, hein. Faut que tu ailles dans le monde. Et nous aussi, nous sommes appelés à sortir, nous, et partir, proclamer la bonne nouvelle, d'être sauvé du jugement de Dieu. La quatrième fois que Dieu parle à Noé se trouve dans Genèse chapitre 9. Et les versets 1 et 2. Dieu bénit Noé et ses fils, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre. Sois mes témoins, c'est ce qu'il dit à chacun de nous. Éprouve les douleurs de l'enfantement, pour que Christ soit connu, mais reçu dans les cœurs, par l'action de mon esprit. » Genèse chapitre 9. Hein. Genèse chapitre 9, verset 8. Nous lisons ceci. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. » Dieu fait alliance avec des hommes méchants qui ont reçu la grâce de Dieu. Jésus-Christ n'a pas honte de nous appeler ses frères. Dieu fait une alliance en Jésus-Christ. Une alliance qui est éternelle, une alliance qui est nouvelle par le sang de Jésus-Christ. C'est ce que ce verset me dit. Un peu plus loin, Genèse 9, verset 8, et au verset 11, toujours dans cette même phrase qui concerne l'alliance et la fidélité de Dieu, verset 11, « Tu vois, Noé, j'ai établi mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par l'eau du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Et pourtant, ce qu'on voit sur la terre aujourd'hui, ces flots qui défilent à cause d'un nuage, pouf, d'orage qui se précipite sur une zone, mais on est effrayé. Et Dieu dit, je n'exterminerai plus la terre de cette manière. C'est un autre sujet, le feu. Mais sa fidélité est là, et ce que nous constatons autour de Nala est là pour nous avertir que Dieu reste fidèle à sa parole. Mais il nous avertit au travers des événements que nous vivons. Est-ce que Dieu va tenir sa promesse? Genèse chapitre 9 et au verset 12. Pour la sixième fois, Dieu parle à nouveau à Noé. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'ai établie entre toi et moi, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations et à toutes. J'ai placé mon arc-en-ciel dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Est-ce que vous êtes réjouis quand vous voyez l'arc dans le ciel? Au travers, c'est le rayon qui diffuse et qui réfracte ces différentes ondes lumineuses pour en former plusieurs couleurs. Est-ce que vous êtes réjouis en voyant cela? C'était la première fois qu'un arc-en-ciel apparaissait sur la terre. Avant, il y avait un tas d'eau en dessous. Vous relirez ce qui se passa au deuxième jour de la création. Genèse chapitre 1, verset 6, si j'ai bon souvenir. Il y avait les eaux d'en dessous et les eaux du dessus, et Dieu les a séparées. Et Noé et les gens qui ont précédé ont vécu dans cette atmosphère humide. Imaginez que toute l'eau qui était là au-dessus, boum, tombe en une fois, pendant 40 jours, 40 nuits. Il a fallu tout ce temps pour épurer les nuages qui étaient là au-dessus. Et Dieu dit, je n'exterminerai plus, preuve en est, je mets mon arc dans le ciel. Et enfin, la dernière fois où Dieu parle à Noé se trouve au verset 17, 9, 17, et nous lisons, « Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. » Bien-aimés, ce matin, nous avons partagé le pain et le vin, qui nous parlent d'une part de la justice parfaite de Dieu, qui nous parle de l'amour parfait de Dieu pour nous, et qui nous dit, qui doit nous rappeler, l'œuvre de Christ à la croix du calvaire. Et il nous dit, ça, c'est le signe de l'alliance nouvelle et éternelle que je fais avec toi. On va revenir. J'ai 10 minutes. On va revenir au premier avertissement et je pense peut-être englober toutes les autres paroles si vous continuez chez vous à méditer ces paroles. Nous lisons dans Genèse chapitre 6
Et je lis au verset 11 déjà. Genèse 6, verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre, comme aujourd'hui. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrivée. Pars de vers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Et le jugement du temps de Noé par le déluge est arrivé. Parmi tous ces hommes qui étaient corrompus, qui étaient violents, qui étaient pervers, il y avait un homme dont Dieu, que Dieu a regardé favorablement. Et nous le lisons verset 8, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Pourquoi ? Parce qu'il marchait avec Dieu. Dieu va parler à Noé. Dieu, dans une première fois, lui révèle que ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Il en est dégoûté. Il ne peut plus le voir ni le supporter, encore moins le supporter. Les hommes se vautrent dans la corruption, dans la méchanceté, dans la violence. Et ça s'aggrave de jour en jour, aujourd'hui particulièrement. Les hommes vivent sans Dieu. Le Dieu de Jésus-Christ, ils vivent sans ce Dieu-là. Sans espérance, méprisant les paroles du Dieu créateur sur les différents aspects de sa personne, sur l'aspect physique, on ne va pas épiloguer là-dessus, sur l'aspect moral, sur l'aspect spirituel, on ne veut plus de lui. Et Dieu dit à Noé, stop, fini, je ne veux plus voir cela. Il ne peut plus supporter davantage le péché sans le punir. Et c'est le prophète Habacuc qui dit, tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux regarder l'iniquité. Ce péché qui, depuis l'origine, a mis une séparation, un mur infranchissable entre Dieu et les hommes. Vous allez me dire, allez, un Dieu qui est bon ne va pas exercer son jugement. J'ai plusieurs paraboles à citer, mais je n'en prendrai qu'une. Elle se trouve dans Luc chapitre 13. C'est un maître qui possède un terrain, il a planté une vigne, et dans cette vigne, il a planté un figuier. Et il dit au vigneron, tiens, va-t'en un peu voir si le figuier enfin a porté du fruit. Et le vigneron arrive sur place, et le figuier n'a toujours pas porté de fruits. Le vigneron entend de la part du maître, voilà déjà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le ! Stop ! Il occupe une terre inutilement. Et le vigneron, symbole de Christ, qui révèle l'amour parfait du Père, dit, Seigneur, laisse-le encore 1 an.
Je vais prendre soin de ce figuier. Je vais faire un trou tout autour, y amener les ingrédients, le fumier dont il a besoin pour le remettre en ordre de marche, pour sa bonne santé. Et puis, cette année écoulée, voilà, s'il ne porte toujours pas de fruits, tu le couperas selon ta volonté. Ce qui est arrivé au figuier, c'est qu'il n'a toujours pas porté de fruits et qu'il a été coupé. Supposons que l'année de patience du maître à l'égard de ce figuier se clôture ce jour, 7 août 2016 à 11h25. Depuis un an, il a entendu l'appel du maître. Depuis un an, il a été soigné, bichonné, tout ce qu'on veut là, pour qu'il porte du fruit. Et il n'en porte pas. Dès lors, le jugement s'opère, coupé, jeté au feu. Question. Quand je regarde les textes de la parole de Dieu, le figuier me rappelle l'histoire d'un peuple, mais aussi l'histoire des hommes placés sous la condamnation de Dieu. Supposons que ce figuier me représente moi, homme, et que Dieu m'ait annoncé, m'ait averti, mais aimé, mais donné tous les tendres soins depuis le 7 août 2015, l'année passée, à la même heure, 11h aujourd'hui, 11h27, et qu'il vienne aujourd'hui, que Jésus revienne maintenant, où serais-tu? Condamné, coupé au feu, dans l'enfer, ou sauvé. Dieu un jour dira, stop, assez. Quelle sera ta destinée? Ce n'est pas après la mort qu'on choisit. C'est durant notre vie sur la terre que Dieu nous fait la grâce de nous tourner vers lui et de le choisir comme maître, comme Seigneur et Sauveur. C'est sur la terre que je réponds à l'œuvre du Saint-Esprit dans mon cœur, qui est un esprit qui me convainc que je suis pécheur de justice, de péché et de jugement. Je scelle donc mon sort éternel lorsque je suis sur cette terre, avec ou sans Dieu. Quelle est l'assurance qui est au fond, pas de ma tête, mais de mon cœur, pour dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mes yeux le verront et non pas ceux d'un autre. Je sais que l'amour de Dieu ne sera jamais loin de moi. J'ai l'assurance. Est-ce que je le sais de mon intelligence ou est-ce que le Saint-Esprit, je me suis laissé convaincre par lui pour faire descendre ce savoir de mes pensées dans le savoir de mon cœur? Quelle est ton assurance, bien-aimé? Quelle est mon assurance? Ah, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, je ne sais pas bien. Avec Dieu, les peut-être, les oui et non, ça ne va pas. Je sais ou je ne sais pas. D'ailleurs, si on lisait l'Épître aux Corinthiens, nous verrions, en Dieu se trouve le oui et l'amen. Il n'est pas oui ni non, c'est oui. Donc, les abstentions, je les invite à se tourner vers leur Sauveur, et les non aussi. L'assurance se trouve dans la parole de Dieu, j'en ai choisi deux. Jean chapitre 3, verset 36, « Celui qui a le Fils a la vie, pas aura, non, il a la vie. Et cette vie, elle est éternelle. Elle est une vie abondante. Celui qui n'a pas le Fils, continue le texte, n'a pas la vie. » Ah, c'est pour me dire que je dois arrêter. Bon. N'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et toujours le même évangéliste Jean de dire dans son épître, « Je vous ai écrit toutes ces choses, afin que vous sachiez, que vous ayez la certitude, que vous sachiez que vous avez la vie éternelle si vous êtes unis à Jésus-Christ. » Si je n'ai pas la certitude de cette vie, il y a un impératif. Je dois, tu dois rencontrer ton Seigneur et ton Sauveur. Du temps de Noé, cela faisait 120 ans que Dieu parlait par son serviteur. Chaque coup de marteau, chaque coup de scie était là pour rappeler l'avertissement, mais aussi son appel. Alors, quand je lis cela, je me dis, mais depuis combien de temps Dieu, dans sa grâce, me parle et que je refuse sa grâce? Suis-je au point obstiné, je suis à un point tel que je suis obstiné de refuser constamment sa grâce? Dieu est le péché, mais il t'aime. Il veut te purifier par son sang précieux. Il veut te pardonner, il veut nous avoir avec lui dans son ciel saint et pur, dans lequel il n'y a pas de péché qui peut rentrer. Donc il faut passer par la purification. Je vais terminer ce premier paragraphe-là. Et je posais en question comment on peut réconcilier la sainteté et l'amour, comment ça peut? La bonté, dit le psaume 86, la bonté et la vérité se sont rencontrées. La justice et la paix se sont embrassées. Oh, deux antipodes. Bien-aimés, à la croix, je vois le péché condamné en Jésus-Christ. Mais à la croix, je vois la porte du ciel s'ouvrir pour moi. L'arche de Noé, il a dû flotter sur les eaux et rencontrer le jugement de Dieu. Mais ceux qui étaient dans l'arche étaient à l'abri. Et à un moment donné, mais ça c'est pour une autre occasion, pour vous-même, c'est pas Noé qui a fermé la porte, hein. C'est Dieu lui-même. Et tous ceux qui pendant 120 ans ont entendu l'appel de Dieu ont dit non. Mais quand ils ont frappé à la porte de l'arche, il n'y avait pas de poignée à l'intérieur de l'arche, hein. Noé ne savait pas ouvrir. C'est Dieu qui avait fermé l'arche. Pour moi, l'arche est donc le type même de Christ. Ça me fait penser à Christ, qui a rencontrer la justice de Dieu à cause de mes péchés, qui les a portés, qui a rencontré ma condamnation, et pas seulement la mienne, mais celle du monde entier, des hommes passés, présents, et jusqu'au retour du Seigneur. Il a rencontré tout cela à ma place. Il a versé son sang précieux pour me purifier. Sur la croix, le ciel s'est obscurci. Dans cette nuit, une nuit de souffrance, de péché, de colère, de condamnation, d'abandon de Dieu, Jésus-Christ est le seul témoin de la colère de Dieu qui est sur moi et qu'il est en train de porter. Il porte le poids de mes offenses, non pas seulement des miennes, mais du monde entier. Le châtiment qui me donne la paix, il est tombé sur lui. Qui peut, bien aimé, sonder la profondeur de ces trois heures sombres de la croix, où la terre entière est dans l'obscurité et où le Seigneur Jésus, qui avait dit, moi et le Père, nous sommes un, Jésus qui avait dit sur la terre, je sais que tu m'exauces toujours, sur la croix, durant ces heures sombres, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Et je lis un psaume de Corée qui est là pour annoncer, comme Isaïe et bien d'autres psaumes, ce que le Seigneur Jésus a enduré. Et le psaume de Corée dit ceci: comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Le Seigneur Jésus soupirait après le Dieu qu'il avait si fidèlement servi et duquel il était séparé. Et dans ce psaume, je lis au verset 8, « Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. » Et dans une autre traduction qui est plus littérale, je lis ceci dans la version d'Arbi, « Un abîme. » Jésus a été plongé dans l'abîme de la séparation d'avec Dieu. Mais pas seulement un abîme. Un abîme appelle un autre abîme à la voix de tes cataractes. Un mot qui n'est plus utilisé, les chutes du Niagara, là. Mettez-vous en dessous pour voir si vous allez résister au bruit de tes ondées, de tes cataractes. Un abîme appelle un autre abîme au bruit de tes ondées. Et toutes tes vagues et tous tes flots ont déferlé sur moi. Pour Noé, c'était le moyen d'être sauvé, c'était l'arche. Pour nous, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi l'exhortation m'est laissée ce matin. Ce message qui a été apporté dans le livre aux Hébreux, mais tout au long de la parole de Dieu, mais le livre écrit aux Hébreux, chapitre 2, dit ceci: comment échapperons-nous à une telle punition, à une telle condamnation, si nous négligeons un tel salut offert de la part de Dieu gratuitement en Jésus-Christ? Pour ceux qui sont attachés à Jésus-Christ, en qui Christ habite, il n'y a plus de condamnation. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu justifie. Et il nous a justifiés en Jésus-Christ par son sang précieux. Noé, repos, consolation. Est-ce que Christ est votre repos et votre consolation. C'est pourquoi je vais inviter, en clôturant, oui, on va chanter « Qu'un repos céleste, Jésus d'être à toi ». Et je vois Guy qui est revenu. Il m'a offert un livre que je vous conseille. Guy, tu pourrais venir nous lire l'histoire comment. D'ailleurs, ce livre s'appelle « Ainsi sont nés nos cantiques ». Et lire ce que tu as dû traduire, méditer, mâcher, pour que nous puissions, après avoir entendu comment ces paroles sont venues à son auteur, mieux comprendre ce que nous allons chanter. C'est à partir d'ici. Oui.
Alors, Stapford était avocat à Chicago. Lors de l'incendie qui détruisit cette ville en 1871, il perdit tout ce qu'il possédait. Alors il se remit au travail pour rétablir sa situation, tandis que sa femme et ses enfants allaient vivre chez ses parents en Europe jusqu'à ce que les circonstances permissent leur retour. Madame Stafford et les quatre enfants s'étaient embarqués sur la ville du Havre. C'est un bateau. Le paquebot entra en collision avec un voilier et il sombra en plein océan. Dans la panique générale, Madame Stafford avait gardé tout son calme et elle avait amené ses enfants sur le pont. Là, elle s'était mise à genoux, suppliant Dieu soit de les sauver, soit de leur accorder à tous une mort paisible. En un quart d'heure, le vaisseau avait coulé. Mère et enfant avaient été précipités dans le gouffre. Elle fut recueillie, évanouie dans un canot. Mais les enfants avaient disparu. Au débarquement à Cardiff, la malheureuse femme télégraphiait à son mari, sauvée seule. Il fallait vraiment la confiance de Job pour accepter avec soumission cette nouvelle épreuve. Stafford en reçut la grâce et c'est dans son affliction qu'il lui fut donné de composer le chant qu'il a apporté à la consolation de tant d'affligés. Quel repos céleste! Jésus d'être à toi pour la mort et pour la vie, dans les jours mauvais de chanter avec foi. Tout est bien, ma joie est infinie. Quel repos céleste!